France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le terme de civilisation judéo-chrétienne est ancré dans le langage courant et plus particulièrement politique depuis quelques années maintenant. Mais que recouvre réellement cette expression? Quelle est son histoire sémantique, discursive? Ce lien entre les deux mots semble aujourd'hui évident alors qu'il ne l'a pas toujours été. C'est ce que démontre l'historienne Sophie Bessis dans un nouvel essai intitulé « La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture » qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. 25 ans après son ouvrage « L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie », l'historienne revient sur l'histoire de ce double adjectif et le changement de paradigme qui s'est opéré il y a une quarantaine d'années en décortiquant le nouveau sens politique et civilisationnel qui lui est donné depuis lors. Bonsoir Sophie Bessis.
Bonsoir.
Et vous êtes, je le rappelle, l'autrice de cet ouvrage qui vient de paraître et intitulé « La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture ». Bienvenue dans Question du soir. Et si nous avons choisi de vous inviter, Sophie Bessis, c'est effectivement parce que cette expression-là, civilisation judéo-chrétienne, ressort de plus en plus vivement dans l'actualité, notamment pour être liée à la notion d'identité collective, d'identité française. Je voudrais à ce titre citer Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Au moment où il venait d'être nommé, il s'exprimait dans le journal du dimanche et disait « Notre culture est judéo-chrétienne. Le creuset français se fête à Jérusalem, il se fête à Athènes, il se fête à Rome. C'est une civilisation unique qui est aussi européenne. Et le pire pour moi, c'est de voir cette mauvaise conscience européenne alors que l'Europe est le symbole de la liberté. » Fin de citation. Comment est-ce que vous analysez cette prise de position ?
Eh bien, d'abord, je voudrais relever les contradictions de cette prise de position. Si l'Europe se fait à Jérusalem, en partie, d'après les propos du ministre de l'Intérieur, comment se fait-il que depuis qu'elle existe ou qu'elle a conscience de son existence, elle a récusé de manière absolument permanente sa part d'Orient. Que je sache, Jérusalem n'est pas une capitale occidentale, elle est au cœur de l'Orient, et les trois monothéismes, dont deux d'entre eux sont revendiqués comme exclusifs de l'Europe, eh bien, sont nés dans cette partie du monde que l'on appelle l'Orient. Donc il y a là une contradiction fondamentale qui est le fait que on se revendique de cette construction, en fait, épistémologique et sémantique qu'est la civilisation judéo-chrétienne, en l'excluant totalement de son contexte et en accouplant deux termes qui, au cours de l'histoire de l'Europe, ont été totalement antinomiques jusqu'à une période extrêmement récente. Deuxième contradiction, me semble-t-il, des gens comme M. Retailleau, en tout cas ses partenaires politiques insistent aujourd'hui et en font une arme de combat pratiquement sur la laïcité de la France. C'est très bien, moi je suis parfaitement laïque, j'en suis tout à fait satisfaite. Mais dans ce cas-là, comment peut-on se réclamer uniquement d'une civilisation judéo-chrétienne, c'est-à-dire de paradigme religieux et uniquement religieux, comme s'il n'y avait rien d'autre qui pouvait définir la civilisation européenne. Car il y a certes une civilisation européenne, il y a des éléments d'un héritage biblique dans cette civilisation, comme d'un héritage hellénique. Quelqu'un comme un philosophe comme Emmanuel Lévinas avait dit en gros dans l'un de ses ouvrages que l'Europe était fille de la Grèce et de la Bible. Je souscris à cette définition qui me semble tout à fait pertinente. Elle n'est pas judéo-chrétienne pour une série de raisons que j'essaye d'expliquer dans ce livre.
On va revenir, Sophie Bessis, sur beaucoup d'éléments que vous venez de déplier. Je voudrais avant cela vous faire réagir à une autre prise de position, celle de Michel Onfray dans Le Figaro. C'était il y a quelques jours dans un entretien donné au journaliste Alexandre Devecchio. Il disait, pour l'islamo-gauchisme, l'ennemi est l'homme blanc judéo-chrétien et sa culture trois fois millénaire. Qu'est-ce que cela signifie là aussi, cette association d'hommes blancs judéo-chrétiens?
Ça m'amuse, trois fois millénaire. Alors si on est historien, le christianisme n'est que deux fois millénaire. Bon, le judaïsme, en revanche, est beaucoup plus que trois fois millénaire. Donc là, il y a des erreurs historiques, des approximations qui me semblent peu sérieuses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si l'on parle du monothéisme, parlons-en. C'est un phénomène historique tout à fait intéressant. L'émergence du monothéisme, je le rappelle, en Orient. Bon, Monsieur Onfray peut déverser sa bile contre l'islamo-gauchisme dont on ne sait pas très bien par quoi il est défini d'ailleurs, mais je reviens sur le terme islamo, qui me paraît plus intéressant, car le monothéisme dit abrahamique, c'est-à-dire dont la racine serait Abraham, a trois piliers. Le judaïsme, qui est son pilier princeps, c'est là que tout a commencé, le christianisme qui en est dérivé, et l'islam. L'islam qui est une des trois religions du monothéisme abrahamique. Et si l'on prend le texte fondateur de l'islam, qui est le Coran, par exemple, eh bien, le Coran se réclame, qui est inspiré totalement de la Bible. Abraham est un personnage principal. Moïse est un personnage essentiel.
Marie également.
Comment ?
Marie également.
Alors Marie a droit, effectivement, si vous voulez, le Coran se réclame de tous les prophètes qui ont préexisté à Mahomet. Et des personnages importants, aussi bien du récit biblique que des récits des évangiles. Donc effectivement, Marie a droit à une sourate tout entière. Et Abraham est plus cité dans le Coran que Mahomet. Voilà. Donc, détaché. Alors, pour un tas de raisons historiques, ça a été détaché. On n'arrivera pas à les cerner toutes dans le cadre de cette émission, bien sûr. Mais si l'on veut tout de même parler du monothéisme, judéo-chrétien est une aberration historique.
Je voudrais en revenir, Sophie Bessis, à votre démarche première et principale dans ce livre, qui est la volonté de déconstruire cette expression de civilisation judéo-chrétienne en un temps, dites-vous, où elle est devenue une arme redoutable aux mains d'extrême droite, tout est au pluriel, cherchant à devenir hégémonique des deux côtés de l'Atlantique, en Europe occidentale comme en Amérique du Nord, et désormais en Israël. Fin de citation. Pourquoi vouloir déconstruire cette expression alors qu'elle a été construite pas à pas ? Il faut nous expliquer pourquoi.
Écoutez, il y a des occurrences savantes de ce terme qui sont anciennes, parce que effectivement, il y a des études bibliques, il y a des études sur les évangiles, et il y a des correspondances. Il y a eu des correspondances pendant l'Antiquité, on peut dire jusqu'à la période constantinienne à peu près, où le judaïsme était à l'époque une religion prosélyte. Ce que l'on a tendance à oublier maintenant, et où il y a eu évidemment des entremêlements entre le judaïsme et le christianisme, dans la mesure où le christianisme est issu du judaïsme, où d'abord Jésus a été un prophète juif, avant d'être autre chose. Certains avancent même, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, que le christianisme a été inventé par saint Paul et non pas par Jésus. Mais c'est un autre sujet. Il y a des occurrences savantes, mais ce qui m'a intrigué depuis très longtemps, c'est la raison pour laquelle, depuis, on va dire, 4 grosses décennies, en gros, ce binôme est entré dans le langage courant. À quoi cela correspond-il ? Pourquoi a-t-on éprouvé le besoin de le faire entrer dans le langage courant ? Et à mon avis, il est entré dans le langage courant pour 3 raisons. Par un processus d'occultation, d'abord. Pourquoi un processus d'occultation ? Parce que, quand on est judéo-chrétien, on peut pas être antisémite, bien sûr, puisqu'on est judéo-chrétien.
Puisqu'on a une part juive.
Voilà. Donc, cela permet d'occulter totalement près de 2 millénaires d'antisémitisme en Europe. Or, l'Europe s'est construite, la chrétienté. La chrétienté s'est construite sur cette... Ce que je n'appellerais pas un antisémitisme, puisque l'antisémitisme est une chose moderne, sur un anti-judaïsme, disons, très important, puisque la première altérité contre laquelle s'est construite la chrétienté, c'est l'altérité juive. Le juif était l'archétype de l'autre, et d'ailleurs... une de ces dons, c'est toute la théorie du peuple déicide, et c'est le renvoi du juif à l'Orient. Le juif, c'est l'intrusion de l'Orient dans la chrétienté.
Mais donc, ce que vous nous dites, c'est que cette notion de civilisation judéo-chrétienne, elle permet de faire paravent, elle permet de dissimuler
ce
rapport à l'autre et aux juifs, notamment.
Tout à fait. Elle dissimule, elle occulte, dirais-je, elle permet de passer sous silence aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en parle pratiquement plus, c'est cette matrice anti-juive de la chrétienté et de la civilisation européenne. Ensuite de quoi ? Alors bon, ça va très loin, hein, puisque à l'antijudaïsme traditionnel, dirais-je, chrétien, a succédé à partir du XIXe siècle un antisémitisme moderne qui est fondé sur d'autres paradigmes, celui de la race, celui de l'argent, et celui du judéo-bolchevisme. C'est très important. Alors là aussi, bon, les racismes sont toujours très contradictoires. Et l'antisémitisme, qui est une modalité du racisme, est très contradictoire parce que d'un côté, les juifs veulent dominer le monde avec l'argent, mais de l'autre côté, c'est des communistes et ceux qui ont inventé le communisme. Bon, donc, vous voyez...
Ça résonne aussi avec la notion d'islamo-gauchisme, mais bon, ça pourrait être une autre discussion.
Bien sûr, tout à fait.
Ça, c'est la première raison, donc occulter une part de notre histoire et de notre rapport à l'autre. Deuxième raison,
ça permet, le terme de judéo-chrétien, permet justement d'exclure l'islam de ce triptyque monothéiste. Donc, l'islam ne fait pas partie... La civilisation européenne, qui est la civilisation, historiquement bien entendu, puisque le préjugé, disons, presque pour reprendre un terme qui est très à la mode actuellement, le préjugé suprémaciste européen, occidental, n'a pas encore totalement disparu. Il est ébranlé, certes, par plusieurs contestations, il est mis en danger par la fin de la centralité occidentale dans le monde d'aujourd'hui, mais tout de même, il en demeure de beau reste, hein, il faut bien le dire. Donc, il faut absolument exclure l'islam de la civilisation européenne. Et donc, quand on dit judéo-chrétien, cela permet cette exclusion. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'islam a fait partie de l'Europe, ce que l'on oublie. L'Espagne fut musulmane pendant 7 siècles, entre le 7e et la fin du 15e siècle, avec la chute du royaume de Grenade. C'était un islam européen. Jusqu'à aujourd'hui, dans les Balkans, vous avez des pays musulmans. Je pense à la Bosnie, je pense à l'Albanie, dont les deux demandent d'ailleurs leur inclusion dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait de cet islam? Faut-il l'exclure? L'Albanie, la Bosnie sont-elles judéo-chrétiennes? Elles sont judéo-musulmanes. Et l'Espagne fut en grande partie judéo-musulmane. Et donc tout cela, on l'occulte avec une facilité tout à fait déconcertante. Donc le judéo-chrétien est un outil fabuleux. Pendant très longtemps, les Juifs n'ont pas adhéré à ce binôme, à ce couple, dans la mesure où, dans le monde juif, il y a une vieille méfiance vis-à-vis de la chrétienté, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est revendiqué, parce que Israël, le sionisme, à partir de son invention à la fin du 19e siècle, s'est revendiqué comme totalement occidental et exclusivement occidental. Et que donc, là encore, cela permettait au sionisme d'inventer une nation qui serait la nation juive en Orient, qui n'aurait aucune part orientale. Ce qui va, là encore, à l'encontre de toute véracité historique.
J'aimerais justement vous faire entendre la voix de Marcel Gauchet, historien lui aussi, il s'exprimait sur la chaîne KTO, c'était le 10 octobre 2019.
Dans cette division va peu à peu s'insinuer la perspective d'un ordre humain qui, tout en étant ultimement, métaphysiquement subordonné à la volonté divine, est capable, un, d'avoir sa loi propre, deux, de s'organiser en vue de sa propre amélioration, en vue de règles qui lui sont propres et qui contribuent au bien humain. Parce que, fondamentalement, dans la sensibilité religieuse, il y a une vie, je parlais tout à l'heure de la hiérarchie entre les êtres, mais cette hiérarchie est celle de la hiérarchie des mondes. Il y a l'autre monde, le bon, si je puis dire, et le nôtre, qui est mauvais. Par définition, la vallée de larmes bien connue, il y a une sensibilité hiérarchique profonde dans l'idée, qui dans les religions du salut, qui ne sont pas toutes les religions.
Ce qu'explique Marcel Gauchet au début de son intervention, Sophie Bessy, c'est tout simplement la sortie progressive du religieux en Occident. Et on se demande dans le même temps pourquoi cette notion de civilisation judéo-chrétienne qui met ensemble deux notions religieuses pour décrire un phénomène culturel refait surface dans les années 70, notamment, c'est ce que vous décrivez.
Oui, alors c'est très intéressant, effectivement, c'est ce que je vous disais au début de cet entretien, pourquoi l'Europe... et plus généralement l'Occident, puisque les Américains sont très attachés à cette notion de judéo-chrétien également, pourquoi leur civilisation tient-il à la qualifier par deux termes issus du vocabulaire religieux, qui appartiennent de plein pied au vocabulaire religieux, c'est extrêmement intéressant. Je crois qu'on peut l'expliquer de plusieurs manières. Je ne partage pas l'avis de Marcel Gauchet, qui l'a dit à plusieurs reprises dans ses ouvrages et dans ses interventions, sur le fait que le christianisme serait une religion de la sortie de la religion. Parce qu'on peut trouver, dans toutes les religions, on peut trouver des éléments de sortie de la religion. Et il ne faut tout de même pas oublier que le christianisme, que l'Église, en tant que telle, s'est battue juste tant qu'elle a pu pour que l'Europe ne sorte pas, justement, de sa matrice, de la matrice ecclésiastique. Il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, effectivement, pourquoi ? Alors, il y a plusieurs choses. N'oublions pas que, et c'est intéressant à signaler, que l'hégémonie progressive du terme civilisation judéo-chrétienne est contemporain, est un presque corollaire, dirais-je, de la fin du grand messianisme laïque du XXe siècle qu'a été le communisme. Donc, la ruine, la chute de cette grande utopie séculière qui a quand même entraîné des masses considérables durant les deux premiers tiers du XXe siècle, à peu près.
Mais ça veut dire quoi? Une idéologie s'effondre, alors il en faut une autre pour
la remplacer? Bien sûr,
pour
je pense que la politique a horreur du vide, de même que la nature.
Mais le judéo-christianisme, ça n'est pas une idéologie à proprement parler, dans le sens...
Non, bien sûr que non.
Comme l'était le communisme.
Le religieux, quand même, a pris la place, et on peut le constater sur divers phénomènes, si vous voulez. On peut le constater, effectivement... Le terme judéo-chrétien n'est pas une idéologie, vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais, tout de même, il a émergé dans la doxa, au moment même où le communisme et l'utopie qu'il avait créée se sont effondrées complètement. Et on peut remarquer, d'ailleurs, sur le plan purement politique et idéologique, que à l'effondrement du communisme, qui s'était dévoyé dans les régimes que vous connaissez aussi bien que moi, eh bien, ont commencé à émerger les idéologies religieuses, que ce soit l'islam politique, que ce soit les évangélismes dans le monde protestant, sortons du monothéisme, que ce soit l'hindouisme en Inde, enfin l'intégrisme hindou en Inde, tout cela a commencé à prospérer à partir de la deuxième moitié des années 1970 à peu près.
Mais si je vous comprends bien, Sophie Bessis, quand un responsable politique français utilise ce terme-là, cette expression de civilisation judéo-chrétienne, est-ce qu'il y a selon vous un prosélytisme religieux, une idéologie religieuse derrière ?
Non. Non. Je crois que non, il n'y a pas forcément. Il y a des gens tout à fait laïcs qui
Alors
l'utilisent.
Alors pourquoi est-ce que vous la liez au retour du religieux ?
Parce que le vocabulaire, y compris dans les sociétés séculières comme la France, qui est une société profondément sécularisée. Je ne parle même pas de la laïcité juridique, hein. Mais la France est une société profondément sécularisée. Eh bien, cette notion, disons, je préfère employer le terme de notion de judéo-chrétien, a permis justement la clôture de l'Europe sur elle-même et le renvoi de l'autre. Alors, après le nazisme, après le judéocide nazi, parce que c'est quand même un nœud extrêmement important dans l'histoire de l'Europe, le judéocide nazi. Pourquoi est-ce un nœud ? Non seulement à cause du fait que les nazis ont exterminé 6 millions de juifs dans les chambres à gaz, mais au fait que tous les pays européens ou presque ont été soit des complices actifs, soit indifférents. La France,
naturellement.
La France, la Hongrie, la Lituanie, etc. ont été des complices actifs, hein, il faut pas oublier. La Roumanie, n'en parlons pas. Et donc, il a fallu évacuer cette culpabilité. Et comment était-il possible? Et une des fonctionnalités de ce terme judéo-chrétien est là. Il a fallu évacuer cette culpabilité. Et donc, comment est-ce qu'on a évacué cette culpabilité, qu'on a essayé de l'évacuer? Un, en soutenant non seulement la création de l'État d'Israël, qui était l'État des réprouvés, des rescapés du génocide, mais en soutenant la politique de cet État, y compris dans ses pires dérives.
Je voudrais justement vous faire entendre la voix du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui était invité sur la chaîne française LCI.
Tout à fait, je le cite,
mai 2024.
Notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France.
If we lose here, you lose here.
Si nous perdons ici, vous perdez ici. Si nous gagnons ici, vous gagnez ici.
Et votre victoire.
Benjamin Netanyahu qui mêle ici les langages.
Tout à fait,
vous
l'analysez
justement, absolument. C'est pour ça qu'on a proposé cet extrait-là. Comment Sophie Bessis, vous analysez là aussi cette prise de position très forte comme un pont tendu vers la France.
Mais là encore, je reviens au contexte de la naissance du sionisme. Ce contexte est très important. Le sionisme est né à la fin du XIXe siècle dans le contexte des nationalismes européens. C'est au départ, le sionisme, un nationalisme européen. Et quand on lit Theodor Herzl, on ne peut qu'en être convaincu. Theodor Herzl dit explicitement...
Le grand théoricien du sionisme.
Que effectivement, l'État juif sera une portion d'Occident au cœur de la barbarie orientale. Voilà. Et que donc, voilà un État qui a voulu s'installer au cœur de l'Orient et qui s'est voulu exclusivement occidental, c'est-à-dire qui a barré toute possibilité de s'intégrer à son environnement. C'est quand même assez extraordinaire de la part de cet État. Et c'est ce que dit Netanyahou. Nous sommes des Occidentaux et c'est une façon pour cette droite israélienne et maintenant cette extrême droite israélienne qui est au pouvoir dans l'État d'Israël, de renvoyer son environnement à une barbarie ontologique. Et donc, c'est dans la continuité de ce renvoi de tout ce qui est musulman à une sorte de barbarie ontologique.
Un point qui m'a beaucoup intéressé, Sophie Bessis, dans votre réflexion sur cette civilisation judéo-chrétienne, c'est la façon dont l'islam, dont le monde musulman dans sa pluralité, dont l'Orient, là encore une fois, dans sa pluralité, s'est saisi de la notion, s'est saisi du concept pour tenter de la contrecarrer, pour tenter aussi de la retourner, de se la réapproprier. Racontez-nous ça.
Oui, alors pas le monde musulman. Je dirais, parce que le monde musulman, vous savez, on en parle comme ça, ça veut rien dire. Le monde musulman, il va de la Malaisie au Maroc. Donc... Est-ce qu'il y a un monde musulman ? Non, il y a un monde où l'islam est la religion dominante. Mais enfin, il n'y a aucun trait culturel commun à part la religion entre un Marocain et un Malaisien, ou un Indonésien. En revanche, moi je parle plus volontiers, parce qu'il y a des caractéristiques culturelles communes, d'un monde arabo-turco-iranien. Voilà, où il y a, même si... N'allez pas traiter un Iranien d'arabe, parce que vous allez vous faire très mal voir.
Mais quand même, comment expliquer justement voilà. La façon dont ce monde-là se réapproprie le terme ?
Parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette partie du monde. Il s'est passé quelque chose qui est un nationalisme, soit un nationalisme arabe, extrêmement offensif, soit un islam politique tout aussi offensif. Et ces idéologies ont contribué à... faire en sorte que les Juifs quittent cet Orient où ils étaient implantés depuis, disons, la nuit des temps, bien que la nuit des temps n'existe pas en histoire. Mais, disons, la nuit des temps pour faire facile. Et que donc, entre les années 1950 et les années 1970 à peu près, on va dire ces deux grosses décennies-là, il y avait, disons qu'à la fin des années 40, il y avait, au moment de la création de l'État d'Israël, il y avait à peu près 1 million de Juifs dans cette grande ère culturelle. Et qu'aujourd'hui, il en reste une vingtaine de milliers à peu près. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que, et moi je les appelle, en empruntant l'expression à l'ethnologue Germaine Tillon, j'appelle le sionisme et le nationalisme arabe des ennemis complémentaires. Dans la mesure où Le nouvel État d'Israël avait besoin d'un prolétariat. Le prolétariat européen, juif européen, avait été consumé dans les fours crématoires. Il n'y en avait plus. Et le seul prolétariat juif qui restait, c'était dans le monde, dans cette partie du monde, le monde arabe. Et donc, l'agence juive, le bras armé, disons, du foyer juif, est allé les chercher. On connaît même, les historiens ont, par le menu, les transactions qui ont été faites avec un certain nombre de pays arabes. Et donc, l'agent juif en avait besoin, l'État d'Israël en avait besoin, et le monde arabe voulait s'en débarrasser, parce que le monde arabe aussi s'est construit en grande partie sur une forme de réclusion identitaire qu'a été le nationalisme arabe. Et donc, ça permettait de chasser les juifs de son histoire. Donc, en fait, qu'est-ce que j'essaie de démontrer dans ce bouquin ? C'est que ce terme de judéo-chrétien est utile à tout le monde, et pour des raisons différentes, mais sert à tout le monde.
Il est instrumentalisé par tout le monde absolument et de plus en plus présent dans l'actualité politique internationale. Merci par conséquent de ce livre qui permet de déconstruire cette notion, d'en retracer également l'histoire, Sophie Bessis. Je rappelle le titre de cet ouvrage, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, ça vient de paraître au Lien. Qui libère, merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci à vous.
France Culture.